Madame Fontaine.
Bon matin.
Comment vas-tu?
Ça va bien toi-même?
Ça va très bien, merci. Qui était à l'écoute assidûment de la précédente entrevue.
Et qui a l'eau à la bouche à savoir quelle est cette annonce qui s'en vient demain, ce grand projet
nous
pour la
titillé,
région.
Je vais mélanger. Là.
Absolument. Susciter notre intérêt. Intéressant hein, quand même, puis tu le disais, des fois on a l'impression que c'est une façon de faire un peu différente. En même temps, rappelons-nous que Karine Vallière avait embauché à un moment donné un ancien candidat de la CAQ à son bureau de circonscription pour l'aider. T'sais. Moi, je dis souvent qu'il y a beaucoup plus de choses qui unissent les gens qui s'intéressent à la chose publique que d'éléments qui séparent les gens de formations politiques différentes.
À la base, on veut servir la population. C'est la prémisse de toute personne qui se présente en politique, selon moi?
Exactement, absolument. En principe, on veut le bien commun, puis même si on a des divergences sur où il se situe, d'aller chercher l'expertise là où elle est, là, c'est aussi le propre d'un bon politicien. Donc,
exactement.
Salut M. Bélanger qui fait ça.
Ce soir, à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke, on attend beaucoup, beaucoup de monde. D'ailleurs, la rencontre a été déplacée à l'Hôtel de Ville afin qu'on accueille énormément de gens. Concernant l'interdiction de faire du vélo de montagne, Mont-Bellevue, puis on...
En fait, si on revient, là, le projet lui-même, c'est quoi? C'est un projet qui est porté par l'Université de Sherbrooke, pas porté par la ville, par l'Université de Sherbrooke, sur ses propres terrains, qui est celui de faire de la section J.S. Bourque du Mont-Bellevue une réserve naturelle.
Exactement.
Donc, c'est un peu dans le fond, là, il y a deux visions qui s'opposent, deux visions à concilier. Tu as celle sportive, qui s'est beaucoup exprimée en début de semaine au conseil de ville, le vélo de montagne notamment, ceux qui veulent utiliser la montagne pour des activités un peu plus substantielles, sportives. Puis t'as le volet plus plein air ou plus familial qui se dégage tranquillement. On a vu quelques réactions cette semaine pour utiliser la montagne pour de la randonnée ou pour protéger. Puis il y a aussi l'université qui fait des activités d'éducation puis de recherche sur ces terrains-là. Donc là, t'as toutes ces visions-là à concilier. Mais c'est un fait que la montagne est saturée, qu'il y a eu un développement un peu plus désordonné, notamment dans ce secteur-là par rapport au Mont-Bellevue lui-même. Puis il faut trouver un équilibre, puis peut-être pour les activités sportives plus substantielles, trouver d'autres sites.
Parce qu'économiquement, il y a un poids à tout ça, parce que le cyclotourisme, là, on ne se cachera pas, c'est populaire, ça peut attirer des gens. Et les gens parlant bien du Mont-Bellevue, du Mont-GS-Bourg, pour ceux qui les adeptes de vélo de montagne.
Là. En même temps, là, tu m'amènes sur un autre aspect que je voulais aborder, c'est celui du fameux attrait touristique. Tu sais, c'est un argument qu'on voit revenir souvent. On l'a vu sur la question du vélo de montagne sur le mont Bellevue. On l'a vu dans le marché de la Gare quand on a développé aussi tout le sentier autour du lac des Nations. On le voit dans la question de la prison Winter, là, mais c'est un argument facile à brandir, mais c'est pas si simple. Tu sais, une offre touristique, faut que ce soit développé de façon cohérente. Ça peut pas être un peu de tout. Puis à Sherbrooke, notre offre touristique, il faut le reconnaître, est un peu déstructurée. Tu sais, t'as des pôles qui sont pas nécessairement cohérents, le Mont-Bellevue, le marché de la gare, le centre-ville. Il y a un manque de vision. Tu sais, là, je pense qu'il faudrait cibler nos forces, voir ce qui nous caractérise, ce qui appartient à Sherbrooke de façon identitaire, puis identifier puis développer des projets qui correspondent à cette vision-là. Puis il faut se démarquer de nos voisins. On dit, est-ce que le vélo de montagne, ça peut être intéressant pour attirer du monde? En même temps, le monde de l'extérieur qui font du vélo de montagne, ils vont aller
loin,
à Bromont, tu sais. Quand on pense à Bromont, on pense à la montagne. Quand on pense à Granby, on pense aux zoo. Quand on pense à Quaticook, même, on pense à la gorge de Quaticook. À quoi on pense quand on pense à Sherbrooke si on est de l'extérieur d'un point de vue touristique? C'est vraiment pas clair.
Bien, la cohésion dont tu parles est tellement importante. Puis bon, il n'y a pas juste Sherbrooke, on va se le dire, là. Ceux et celles qui sont allés récemment au Vieux-Port à Montréal, c'est n'importe quoi. C'est un super bel endroit, mais non, mais il y a une grande roue, là, on fait une pyramide, il y a des commerçants, il y a une tyrolienne. On dirait que personne ne s'est parlé, puis tout le monde fait son projet de son bord. Je pense qu'il y a des grandes villes comme ça, ici comme ailleurs, qui devraient juste prendre le temps de dire, OK, on a un bel endroit, on fait quoi?
Ouais, exactement. Puis là, tu sais, on fait un pas en arrière. On a parlé du projet de la prison Winter qui ne sera pas supporté. Le conseil municipal a décidé de ne pas réinvestir dans Destination Sherbrooke, de ne pas mettre d'argent neuf, mais plutôt de revoir le fonctionnement de l'organisation parce que c'est leur mission à Destination Sherbrooke d'identifier ou de faire sortir l'identité sherbrookoise, de la mettre en valeur pour identifier les bons produits touristiques qui nous conviennent, tu sais. Puis c'est une grosse mission pour Destination Sherbrooke, on verra où ça s'en va. Mais quand je voyais hier qu'Annie Godbout choisissait de laisser aller le conseil d'administration de Valoris pour se concentrer sur ses autres fonctions, dont celle de Destination Sherbrooke, je me disais, hey, le défi est grand. Puis pourquoi pas une fille qui a une grande expérience en communication, en positionnement pour faire ça. Je lui souhaite et je nous souhaite qu'elle relève ce défi-là.
C'est un gros défi. faut dire.
Un gros défi.
Autre
on monte les attentes, là.
Ben, c'est ça, exactement. On a hâte de voir ce que ce sera au bout du compte. Autre sujet, le gouvernement qui avait, on ne sait plus trop, un important surplus budgétaire.
Un important surplus budgétaire, c'était drôle hier.
Jamais ça. C'est toujours la surprise. Oh, l'autre gouvernement nous a laissé dans le déficit, ça va pas bien, il y a plein de trous partout, mais là, finalement, on aurait plus d'argent qu'on pense.
Exactement. Ben, le qu'on pense est important. Dans le fond, le petit imbroglio d'hier était le premier ministre qui sort en disant ben on n'est pas, c'est pas sûr qu'il y a un surplus budgétaire, il faut vérifier nos chiffres. Je pense pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Après ça, le ministre des Finances qui a été beaucoup plus clair. Tu sais, en fait, le gouvernement sort à chaque mois un état des revenus et des dépenses à ce moment-ci par rapport au budget annuel. Mais effectivement, les dépenses se sont faites à un rythme plus lent que les revenus sont rentrés. Donc, à partir du mois d'octobre, on a un surplus. Mais toutes les dépenses n'ont pas été effectuées par rapport à ce qui a été budgété. Puis ça se peut bien que les revenus ralentissent. T'sais.
Écoute, hypothèse. On joue à un jeu en ce moment. Première ministre Fontaine, vous avez cet important budget, on parle de plusieurs milliards de dollars. Que faites-vous avec cet important surplus?
Bien, d'abord, je pense que je dirais exactement ce qu'ils ont dit hier. Modérons nos ardeurs sur les surplus. Attendons de voir le bilan sur toute l'année. Mais tu sais, moi, c'est sûr que ça m'a fait sourire hier de les voir être prudents sur le montant des surplus, alors qu'au début de la campagne électorale, on nous a fait un cadre financier sur des projections plus optimistes que ce que la vérificatrice générale disait réaliste. Mm-hmm. Là, tout d'un coup, on est au gouvernement, on est plus prudent. En même temps, c'est correct. Pour ma part, c'est sûr que quand j'entends le gouvernement dire « retourner aux contribuables », je me dis « hey, on a eu une campagne électorale dans laquelle il n'avait pas de promesse d'impôts, de baisse d'impôts. Mm-hmm. En plus, tu sais, il y a des réinvestissements à faire dans les services. On a vécu deux premières années d'austérité libérale dans le dernier mandat qui se sont rattrapées après. Est-ce qu'on peut éviter ça? Est-ce qu'en période où l'économie roule dans sa pleine mesure, où l'emploi, où le taux de chômage est aussi bas, est-ce qu'on peut pas faire des réserves, réinvestir dans les services, mais surtout s'assurer que quand le prochain ralentissement va se produire, puis il est à nos portes, là, tous les analystes le disent, on va être capable de maintenir le niveau de service malgré une diminution potentielle des revenus de l'État, tu sais, parce que je ne sais pas si ça va être une crise économique, mais assurément, il va y avoir un ralentissement. On sent les taux d'intérêt ont augmenté récemment. Ça risque de se poursuivre. Tout le monde dit que la surchauffe va s'arrêter puis qu'on pourrait faire face à un ralentissement important. Il faudrait que le gouvernement soit prêt à y faire face puis qu'on ne se retrouve pas à diminuer les services dans une période où l'économie roule moins bien.
Mais à foi, tu es d'une sagesse, Isabelle. Et on va souhaiter, bien, c'est bien d'entendre ça, puis je crois que la CAQ, c'est vers ça qu'on s'enligne. Et souhaitons-le, parce que, évidemment, ce serait facile de tomber dans le piège de « Ah, ça va bien, on dépense », puis ça va ressembler à l'Alberta des belles années quand le pétrole, ça roulait, puis qu'on envoyait des chèques aux contribuables là-bas.
Exact.
C'est arrivé, là, on caricature même pas. Les Albertains ont reçu certaines années un chèque à la fin de l'année du gouvernement qui dit « On a cet argent-là, ouais, c'est rare, ça se dit drôlement, mais on a trop d'argent, voici le surplus, ça vous appartient. »
Mais tu sais, je pense que les citoyens l'ont dit, qu'ils voulaient des services de bonne qualité. Organisons-nous pour les maintenir. Puis en même temps, on est à quelques semaines de la dernière élection, donc à 4 ans de la prochaine. Est-ce que ce serait judicieux pour la CAQ de renvoyer quelques centaines de dollars peut-être dans les poches des contribuables qui ne feront pas nécessairement une grande différence pour se retrouver dans une situation à la veille de la prochaine élection où ce serait plus difficile au niveau des finances publiques puis au niveau économique? Je pense pas.
Avec les élections à date fixe, généralement, on s'en garde tout un petit peu vers la fin du mandat.
On devrait.
Madame Fontaine, bonne journée.
Merci. À demain.
On se retrouve demain à la même heure.